En 2014, M. Lo a écrit et publié un bref commentaire du Genjo Koan de Maître Dogen. À la dernière page de son livre, il note que Dogen enseignait que pratiquer la voix avec un cœur sincère, c'est déjà être éveillé. M. Lo écrit ensuite ces quelques phrases. Il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil. Pas plus qu'entre zazen et la vie quotidienne. Nous ne pratiquons pas pour atteindre l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Mais tant que nous ne pratiquons pas, nous ne savons rien de cette illusion qui nous emprisonne. J'aimerais aujourd'hui commenter ce texte d'Albert. Il commence en disant « Il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil, pas plus qu'entre zazen et la vie quotidienne. » Comme cela est étonnant. Comment est-ce possible? Notre pratique nous paraît si souvent imparfaite, pleine de trous. Nous ne savons pas où aller, comment avancer. Parfois, nous n'y comprenons plus rien. Et que dire de notre vie quotidienne, qui nous paraît si souvent éparpillée, dispersée aux quatre vents, sans direction? Comment est-il possible que notre pratique et notre vie quotidienne, dans lesquelles nous nous sentons si souvent perdus et qui nous semblent si souvent ingrates et humiliantes, comment est-il possible de dire qu'il n'y a aucun écart entre l'éveil et notre pratique, entre zazen et notre vie quotidienne? Le maître Guogu, qui dirige le centre Shen de Tallahassee en Floride, écrit que pour comprendre ce texte, il est bon de distinguer deux points de vue, le point de vue de l'éveil et celui de la pratique. Lorsque M. Lo nous dit que la pratique et l'éveil sont un, il s'exprime à partir du point de vue de l'éveil. De ce point de vue, tous les êtres sont déjà libres. Ils n'ont pas à le devenir. Ils sont déjà pleinement libérés et rien ne les enchaîne. Maître Aquin le dit autrement dans son chant du zazen. Depuis toujours, tous les êtres sont Bouddha. Du point de vue de l'éveil, il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil, ou entre zazen et la vie quotidienne. Chaque geste est un miracle complet. Il n'y manque absolument rien. Il n'y a d'instant en instant. Rien à attendre, aucun éveil à atteindre. Et comme le dit encore Maître Aquin, qu'y a-t-il hors de nous et de quoi manquons-nous? Le nirvana est là sous nos yeux. La terre qui nous porte est la terre de pureté et ce corps même, le corps du Bouddha. Un jour, un moine demanda à son maître, comment discerner la vérité avant le déploiement de l'éveil? Il se déploie maintenant, répondit le maître. L'éveil se déploie en chacune de nos respirations. Il se déploie dans la moindre pensée qui apparaît dans notre esprit, dans chaque émotion que nous ressentons, dans chaque sensation. Il se déploie dans la question que le moine pose à son maître et aussi dans la réponse que donne le maître. Que nous soyons assis en zazen sur notre natte, ou debout dans notre cuisine occupée à préparer un repas, chaque instant est un instant de vérité et d'éveil. D'un instant à l'autre, quelle que soit l'expérience dans laquelle nous soyons engagés, l'éveil reste intact et se manifeste. Dans un autre de ses textes, M. Lo écrit « Aussi longtemps que vous penserez qu'il y a d'un côté l'éveil, puis une expérience, une intuition ou un soi auquel vous vous éveillez, vous serez perdu dans l'illusion. Toute expérience est transitoire, passagère, impermanente. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne venez pas et vous n'allez pas. L'esprit éveillé est votre état naturel. Tous vos efforts pour vous éveiller ne font qu'obscurcir votre esprit. Soyez, c'est tout. Il n'y a aucune technique, aucune pratique pour y arriver. Ce qui est requis ici et maintenant, c'est sauter sans peur dans la vérité. Tout simplement être. Il n'y a rien à changer ou transformer, rien à atteindre ou ajouter, et rien ne nous manque. Comme le dit le maître Guogu, c'est à partir de ce point de vue que M. Lo s'exprime lorsqu'il nous dit que pour Maître Dogen, il n'y a aucun écart entre la pratique et l'éveil ou entre Zazen et la vie quotidienne. Le second point de vue, celui de la pratique, est radicalement différent. C'est un point de vue qui nous est aussi beaucoup plus familier. Lorsque nous arrivons au Zen, c'est avec l'espoir d'y trouver quelque chose qui nous manque. Certains diront qu'ils manquent d'amour et de paix dans leur vie. D'autres qu'ils cherchent la joie et la sérénité. Certains cherchent plutôt la vérité. Ils veulent savoir si leur vie a un sens ou comment mieux vivre. D'autres veulent éloigner les contradictions et les conflits en eux-mêmes et avec les autres. D'autres disent chercher l'éveil ou aspirer à la vie sainte et se disent même prêts à tout donner pour l'atteindre. D'autres encore veulent échapper à l'insécurité ou aux doutes personnels qui les accablent. Lorsque nous arrivons au Zen, nous cherchons quelque chose. Et je vous encourage à explorer vos propres motivations à cet égard. Qu'est-ce qui vous a amené au Zen? Que cherchiez-vous? Qu'espériez-vous trouver ici? Lorsque l'on s'y arrête pour y réfléchir ou en parler, on se rend compte que l'on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Cela reste vague. Nous n'arrivons pas à le formuler. Les mots nous manquent. Nous n'arrivons pas à dire ce que c'est. C'est comme s'il y avait quelque part en nous une question inarticulée, une question qui manque de mots pour questionner, mais qui exige une réponse. Une question qui nous appelle comme du fond de nous-mêmes et qui se manifeste dans notre vie comme une aspiration muette, un élan vers, un inconfort, une sorte de malaise sans contenu. Voici la question qui a si longtemps tourmenté M. Lo dans sa propre vie. C'est aussi cette question inarticulée et l'insatisfaction diffuse qu'elle irrigue de façon presque souterraine dans notre vie qui nous a amenés vers le Zen. Nous voulons quelque chose, mais nous ne savons pas ce que nous cherchons. Nous sommes égarés. Et nous aspirons à être guidés. Car, disons-nous, nous pressentons bien qu'il nous manque quelque chose et qu'il est impossible, après tout, que la vie se résume seulement à cette demi-vie que nous avons l'impression de vivre en permanence. C'est là le second point de vue dont parle le maître Guogu, le point de vue de la pratique. Et c'est aussi pourquoi la pratique est si importante. Comme le dit M. Lo dans son texte, tant que nous ne pratiquons pas, nous ne savons rien de cette illusion qui nous emprisonne. Cette illusion, c'est de croire que quelque chose doit être changé. Récemment, en entrevue individuelle, Une personne m'a dit qu'elle pratiquait plusieurs heures par jour, dans le but, disait-elle, d'accélérer le processus. Elle se disait pressée de s'éveiller, et dans ce but, elle multipliait les heures de zazen. Qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette urgence? L'on se fixe des buts à atteindre, l'on s'impose de suivre un horaire rigide de zazen, l'on s'astreint à une certaine discipline de vie, et quoi d'autre? Et l'on évalue sa propre pratique et celle des autres à la lumière de ces critères. Est-ce que je me rapproche ou non des buts que je dois atteindre? Est-ce que je respecte ou non mon horaire de pratique? Est-ce que je me montre suffisamment attentif dans ma vie quotidienne? Nous voulons, comme le disait cette personne, accélérer les choses. Nous sommes pressés de nous éveiller et nous scrutons soigneusement notre pratique et notre vie quotidienne dans l'espoir d'y déceler les moindres signes d'un début d'éveil. Nous attendons quelque chose, une expérience particulière, quelque chose qui viendra un jour changer du tout au tout notre vie actuelle, une expérience qui nous libérera, une fois pour toutes, du fardeau de notre propre existence et nous fera connaître une plus grande joie de vivre. Et nous croyons que tout cela dépend de nous, de nos efforts, de notre propre volonté. Et c'est très bien ainsi. C'est le point de vue de la pratique, un point de vue dans lequel j'ai ou je n'ai pas, je gagne ou je perds, un point de vue où ceci est bien ou mal, juste ou injuste, un point de vue où je suis ici et le monde est là-bas, où je suis moi distinct et unique, séparé des autres, et où je dois faire quelque chose. Et si l'on persévère dans la pratique, l'on visite peu à peu toutes les impasses qui découlent de ces illusions, et il nous faut les traverser avec patience et humilité. Entrer en contact avec toutes nos vexations et nos humiliations, avec nos rages d'impuissance et notre intransigeance envers les autres et nous-mêmes, côtoyer de près nos prétentions d'être supérieurs, la honte de ne pas être parfait et notre indignation d'être injustement traité sans l'avoir mérité. C'est ce que j'appelle entrer en amitié avec ce qui est, ne rien refuser, et accueillir avec bienveillance tout ce qui se manifeste en nous. Au début, et cela peut durer des années, l'on voudrait tout changer, et l'on mesure la valeur de sa pratique à l'aune des objectifs que l'on s'est fixé d'atteindre. Et si l'on estime avoir échoué à les atteindre ou à s'en approcher, l'on n'hésite pas à se critiquer soi-même, ou à juger sévèrement les autres membres de la communauté, les enseignants ou l'enseignement lui-même. L'on manque de compassion et de tolérance envers soi-même, et notre gratitude envers les autres est encore trop jeune pour endiguer nos exigences envers eux. Et si rien ne change, la plupart des gens finissent alors par quitter. Faute d'atteindre leurs objectifs, ils abandonnent la pratique derrière eux, disant peut-être que le zen n'est pas pour eux, ou que je n'y comprenais rien de toute façon, ou mille autres choses. Et c'est bien ainsi. Il n'y a pas lieu d'insister. Certains reviennent parfois, d'autres jamais. Qui peut vraiment connaître les chemins que nous devons parcourir avant de trouver une voie spirituelle qui parle à notre cœur? Permettez-moi ici de citer un peu plus longuement M. Lowe. Il nous dit, pour s'engager sérieusement dans une voie spirituelle, il est de première importance de renoncer au monde. Et cela peut se faire même s'il n'y a aucun changement évident dans les occupations et les activités courantes. Le geste du renoncement a lieu quand on voit sans équivoque que le monde et tout ce qu'il représente ne peut en aucune façon apaiser notre mal de vivre. L'on voit alors clairement les prétentions du monde, et pour un moment, on se tient dans la nudité et la solitude. Et même si on essayait de toutes nos forces, on ne peut plus revenir en arrière. À ce moment-là, quelque chose est détruit qui ne pourra jamais être remplacé. On se doit maintenant d'avancer sans relâche. Comme je l'ai dit, j'encourage parfois les gens à se demander pourquoi ils pratiquent le zen. Qu'est-ce qui vous amène à la pratique? Pourquoi pratiquez-vous? Pourquoi continuez-vous? Je ne m'attends pas à ce que vous me donniez une réponse définitive ou quoi que ce soit du genre. J'espère seulement que vous y réfléchirez, que vous prendrez le temps de méditer autour de cette question, sans chercher à y répondre peut-être, mais simplement en laissant la question elle-même prendre une certaine place en vous, rafraîchir votre esprit, vous rajeunir un peu dans votre pratique peut-être, et même vous désencombrer de vos vieilles habitudes. N'ayez pas peur de vous poser ces questions, de les laisser vous habiter pendant un certain temps, puis revenez aux zazen. Vous aurez peut-être l'esprit et le cœur un peu plus légers et vous respirerez mieux. Il y a donc ces deux points de vue, celui de l'éveil et celui de la pratique. Du point de vue de l'éveil, tous les êtres sont libres. Du point de vue de la pratique, chacun est enfermé dans son propre monde. Du point de vue de l'éveil, il n'y a rien à faire. Du point de vue de la pratique, l'on doit absolument faire quelque chose. Lorsque l'on s'assoit en zazen, l'on permet enfin à ces deux points de vue de s'interpénétrer. La glace qui recouvre notre vie peut enfin commencer à fondre. Écoutons les mots de Dzilgo Khyentse Rinpoche. Pour le moment, la clarté naturelle de votre esprit est voilée par vos égarements. Mais au fur et à mesure que ces voiles se dissiperont, vous commencerez à découvrir la luminosité de l'esprit éveillé jusqu'au moment où vos pensées se libéreront à l'instant même où elles apparaîtront, comme un trait sur l'eau disparaît dès qu'on le trace. Monsieur Lou poursuit en disant, « Nous ne pratiquons pas pour atteindre l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Vous êtes déjà libre. Vous n'avez rien à faire pour vous libérer. C'est le point de vue de l'éveil et il est juste. Recevez-le avec confiance et chérissez-le. Ce point de vue nous indique non pas dans quelle direction nous devons aller, mais simplement d'où nous venons. Il pointe non pas vers l'éveil, mais à partir de l'éveil. Lorsque nous arrivons à la pratique, c'est de là que nous venons. Nous venons au zen à partir de l'éveil. Je vous encourage à vous le rappeler régulièrement. Vous ne pratiquez pas pour atteindre l'éveil. Vous pratiquez à partir de l'éveil. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés et que nous avons besoin d'une expérience particulière pour y parvenir. Ici, notre maître nous rappelle l'importance de la pratique. Lorsque l'on s'assoit en zazen, les points de vue de l'éveil et de la pratique s'interpénètrent. Pour la première fois, les événements de la vie quotidienne, les situations habituelles qui rythment nos journées, nos propres réactions, nos vexations, nos humiliations, tout ce dont nous sommes fiers ou honteux, toutes nos culpabilités et nos ressentiments, tout cela peut être vu à partir de l'éveil, et non plus seulement à partir du point de vue de la personnalité. Encore ici, écoutons M. Lo. Nous pratiquons le zen, mais tout compte fait, nous ne pratiquons pas le zen. C'est simplement la totalité qui se fait connaître elle-même. Depuis le début, tous les êtres sont Bouddha. La personnalité, c'est-à-dire la personne que vous croyez être, veut cependant tout s'approprier. C'est elle qui est pressée de s'éveiller. C'est elle qui prétend dicter les conditions à remplir pour que l'éveil devienne possible. C'est elle aussi qui décide du succès ou de l'échec de tout ce que vous faites et qui distribue les blâmes et punitions. C'est elle qui cache soigneusement aux yeux des autres sa conviction d'être unique, différente et supérieure. Et lorsque tout cela est vu à partir de l'éveil, c'est-à-dire lorsque rien de tout cela n'est refusé, lorsque toute la personnalité peut enfin s'exprimer en nous, lorsque l'on ne se cache rien à soi-même et qu'on se laisse humblement traverser par tout ce qui monte en nous et que l'on laisse tout cela s'en aller sans rien en retenir, alors l'éveil et la pratique se nourrissent mutuellement. L'on renonce au monde, comme le disait M. Lo. L'on renonce à se défendre ou se protéger contre l'humiliation ou la douleur intérieure que l'on ressent. Et peu à peu, cette humiliation érode notre attachement à toutes les expériences qui nous traversent, aussi sublimes soient-elles. Sans rien refuser, on laisse les vents de la vie nous transpercer, on s'enlève du chemin. L'on voit enfin que toutes nos expériences sont instables et impermanentes, qu'elles n'appartiennent à personne et que personne n'est là pour les recueillir. L'on renonce à retenir le monde, à retenir un monde surtout, celui de la personnalité qui pratique, ce monde où l'on veut que le zen fasse quelque chose pour nous et nous rendre peut-être plus heureux et compatissants. Ce monde factice, où l'on voudrait qu'une profonde sagesse nous change et nous fasse planer au-dessus des choses. L'on renonce à être zen. On cesse de jouer. M. Lo nous encourageait souvent à ne pas pratiquer le zen. Il ne sert à rien de faire comme si l'on pratiquait le zen. Oubliez tout cela. Ne vous encombrez pas d'un tel fardeau. Vous n'en avez aucun besoin. Lorsque vous vous asseyez en zazen, revenez à ce qui est, tout simplement. Vos sensations physiques, votre respiration, ce que vous ressentez, les pensées qui traversent votre esprit. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Il est inutile de chercher autre chose. il n'y a rien d'autre, et rien ne vous manque. La moindre chose devient alors une opportunité de pratique, et peu à peu, vous le verrez, vous renoncerez à chercher ailleurs que dans votre propre vie. Et ce renoncement apparaîtra de lui-même, d'une façon tout à fait naturelle, comme un fruit qui mûrit. Comme l'écrit Albert, nous n'avons besoin d'aucune expérience particulière pour y parvenir. Du point de vue de l'éveil, rien ne manque. Tous les êtres sont déjà libres et sans entrave. Du point de vue de la pratique, chacun est enchaîné à son propre monde, et l'on dirait toujours qu'il y manque quelque chose. Lorsque l'on s'assoit en zazen, l'éveil et la pratique s'interpénètrent. S'éveiller, voir sa propre nature, ce n'est pas réellement voir quelque chose. On n'atteint rien. Simplement, nos illusions disparaissent. Nous pratiquons pour nous libérer de l'illusion que nous ne sommes pas éveillés.